Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir assister à cette présentation du roman de Laurent Philippari, Ne regarde pas l'ombre, paru chez Vent Salé, que je représente ici. Et donc, Laurent Philippari sera interrogé sur son roman par Benoît Lasserre, journaliste politique au journal Sud-Ouest.
Merci Patrick. Bien, à mon tour de vous remercier d'être présent. Donc Laurent Philippari, ça me fait plaisir de te retrouver. On avait fait connaissance justement au fameux premier cycle de rencontres des Jeudis de l'Orléans qui, donc, comme l'a précisé Patrick, vont reprendre demain au rythme là d'un par mois, hein, faut le préciser, mais ça ira très bien. Donc pour parler de ce roman, Ne regarde pas l'ombre, dont tu disais, c'est vrai que même si tu as fait ta tournée des plages cet été, tournée des librairies, surtout pour le présenter, c'est vrai que c'est déjà un roman qui appartient au passé, fut-il récent, donc c'est vrai que c'est peut-être... essayer de se replonger dans le livre pour en parler, un livre qui est écrit, finalement c'est un livre qui est abandonné, si je puis dire, à ses lecteurs. Donc peut-être pour l'auteur, c'est pas forcément le plus facile d'en parler, mais enfin, on va quand même le faire ce soir. Ce que je voudrais d'abord, c'est peut-être un peu dire qui tu es, enfin c'est surtout toi qui vas le dire, donc parce que... c'est important de le dire justement pour la compréhension du roman, peut-être aussi pour sa naissance, sa conception, c'est que tu es toi-même policier. Donc c'est intéressant de noter aussi d'ailleurs que Patrick publie un policier, demain on a un ancien avocat, il y a eu un pompier, donc on attend le juge et le douanier qui est pour publier un roman chez Vent Salé, et puis là on sera au complet à peu près. Donc voilà, alors donc tu es policier à ce nom, parle-nous un peu de ton parcours et puis comment tu es arrivé sur les bords de la Garonne.
Bien, initialement j'ai commencé ma carrière en 2000-2001 à Paris, comme une grande majorité de policiers, puisque les premiers postes sont souvent en Île-de-France. J'ai commencé à la préfecture de police, j'ai d'abord commandé un groupe d'enquêteurs de police judiciaire sur le 11e arrondissement. Après, j'ai eu goût pour une police un peu plus de terrain, un peu plus instinctive. Et ensuite, j'ai commandé la BAC du 7e et je suis descendu ensuite en 2007 sur Bordeaux, où j'ai été officier de quart, c'est-à-dire en gros responsable de tout la nuit. Et puis après, je suis parti sur ce nom où je gère les unités en tenue sur la rive droite.
D'accord. Donc je précise, je ne l'ai pas dit, que tu as le grade de capitaine. Donc peut-être à ton arrivée à Bordeaux, ça je ne sais pas, c'est comme ça que ça procède, quand on est muté en province, on obtient un grade supplémentaire ou pas forcément, donc peut-être on peut perdre son grade aussi d'ailleurs.
Non, pas forcément. Moi, je suis rentré dans la police, dans le corps des officiers de police. Donc, j'ai commencé lieutenant. Et ensuite, en province, je suis devenu capitaine. Alors, ça, c'est un jeu d'ancienneté, de mérite.
D'accord. Voilà. D'accord. OK. Bon, et alors, donc, venons-en quand même à la littérature policière à laquelle tu appartiens désormais. Donc, depuis toujours, toi, tu es un lecteur de romans policiers, de romans noirs. C'est une passion ancienne ou...
Oui, j'aime beaucoup les thrillers, je les aimais aussi, et les romans policiers, avant de rentrer dans la police. Et comme je crois, je te l'avais déjà dit, ce qui m'a poussé à moi-même me mettre à écrire, c'est que je ne trouvais pas dans les livres que je lisais les finesses, les réalités de mon métier. Je trouve qu'on allait toujours chercher des fictions bien inutiles, alors que les ingrédients que fournissent la réalité suffisaient amplement à faire de belles histoires. Donc je m'y suis collé.
Oui, ça on va y venir en parlant un peu du livre, parce que sur l'intrigue, quand tu dis que c'est réaliste, enfin ça l'est peut-être, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'imagination et de chercher des faits qui ne se sont peut-être pas produits dans la réalité, dont on espère d'ailleurs qu'ils ne se produiront pas pour ceux qui ont lu le livre. Est-ce que, sans faire évidemment de la psychanalyse à 2 euros, l'envie de devenir policier, c'est aussi né de cette lecture de romans policiers ou rien à voir ?
Honnêtement, rien à voir. Moi, j'ai voulu devenir policier. À l'époque, ce qui m'avait séduit, pourtant, bon, le fait est que j'avais des diplômes. J'étais d'ailleurs plutôt axé sur la carrière d'avocat. Ce qui m'a plu dans le métier de la police, c'est la diversité. C'est-à-dire, je me rappelle, les affiches publicitaires disaient à l'époque, ne choisissez pas un métier, choisissez de les faire tous. Et c'est ça qui m'avait séduit, parce que c'est vrai, un jour vous êtes procédurier, le lendemain vous allez faire du maintien de l'ordre, du renseignement, de l'humain, du management, du sport. Bref, c'est très très diversifié et c'est ça qui m'avait séduit. Je m'attendais très sincèrement, en rentrant dans la police, à ne pas trouver ce que je trouvais dans les romans policiers.
Oui, d'accord. Alors, malgré tout, on y reviendra peut-être. Ce que tu dis, on peut le comprendre, mais encore une fois, on va développer ça sur le fait que toi, policier, dans les romans que tu lisais, tu ne retrouvais pas la réalité que tu vivais sur le terrain et dans les commissariats. Pourtant, de façon plus générale, et il y a eu un très intéressant article de L'Express cet été, je crois, sur le sujet. On s'aperçoit que de plus en plus, justement, comme toi, de nombreux policiers prennent la plume, pas forcément d'ailleurs pour raconter leur vie ou leur témoignage, mais justement pour écrire des romans policiers eux-mêmes. Donc, t'es pas le seul dans ce cas-là, justement, policier qui ne se retrouve pas dans les romans qui sont publiés.
Alors, c'est extrêmement intéressant, Benoît, ce que tu me dis là, parce que je pense à cet article, puisque j'avais été interviewé par Anne Vidali, qui l'avait rédigé, et je l'ai lu avec grand intérêt, hein. C'est un article de qualité, mais j'étais pas complètement d'accord avec la fin. C'est-à-dire que j'ai découvert, en publiant ce roman, que le milieu du polar était approprié par des gens qui parfois n'aiment pas la police. Moi, il y a des groupes sur Facebook qui me refusent en disant, alors que c'est des groupes axés sur le polar, et qui disent, mais non, les policiers n'ont rien à faire ici, le polar n'a rien à voir avec la police. Donc, si vous voulez, je pense que les policiers se mettent à écrire, surtout parce que le polar s'approprie une police qui n'existe pas, et ils ont tout simplement envie de leur dire, la police, c'est aussi ça.
Mmh. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que tu fais allusion notamment à une partie de d'auteurs policiers de Polar qui étaient politiquement orientés, justement, ou pas forcément. Parce qu'il y a eu ça à un moment, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreux auteurs, de très bons auteurs hein, d'ailleurs, dont on connaît leurs opinions politiques, et qui ne présentaient pas forcément la police sous un très bon jour. Quoi.
Je ne sais pas si ça peut être associé à une idée politique, mais il y a une vision de la police qui est celle qu'ont certaines personnes et ils veulent la calquer dans les romans. Et ça existe aussi. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour saluer Patrick Olaya, qui, contrairement à des... Parce que j'ai fréquenté d'autres éditeurs avant lui. Et oui, j'ai eu une vie. Même si je n'ai rien publié. Et je vous assure...
Le coming out de Laurent Philippe Harry ce soir. J'ai connu d'autres éditeurs.
C'est un peu dur, il va avoir sa petite larme, mais c'est pas anecdotique. Hein. Enfin, c'est arrivé plusieurs fois que des éditeurs me disent, mais attendez, il faut glisser une affaire de pédophilie dans votre roman. Mais je dis pourquoi, ça n'a rien à voir. Mais parce que c'est comme ça, c'est à la mode aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi votre policier n'est-il pas alcoolique? Eh bien, je dis, il n'est pas alcoolique parce que tous les policiers ne sont pas alcooliques, ce n'est pas une réalité inévitable. Pourquoi il n'y a pas toutes ces choses-là? Vous voyez, il y a vraiment des clichés. Eh bien, auxquels les gens sont attachés et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quoi.
Mmh, oui. Oui, cela dit, l'alcoolisme, ça vaut aussi pour les journalistes. Hein, donc, enfin, nous, c'est vrai, en tout cas. Donc, mais il y a quand même, ce que tu dis, je le comprends, mais il y a aussi, par exemple, on va mélanger peut-être les romans et puis le cinéma et les séries, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de séries télé ou de films qui ont été faits sur la police, par exemple. Un auteur qui est de la région aussi, comme Olivier Marchal, c'est quand même lui-même un ancien flic qui présente une vision de la police avec laquelle tu n'es peut-être pas forcément d'accord, parce que c'est une vision quand même assez sombre, assez tragique même du métier, assez pessimiste de ce métier.
Je me garderai de porter une quelconque appréciation sur ce que fait Olivier Marchal, d'abord parce que c'est un grand réalisateur, ensuite c'est quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup. Ceci dit, la police que lui décrit, c'est une police qui est d'une part un petit peu, qui date un peu quand même, hein. C'est la police qui a 25 ou 30 ans, ouais. Et ensuite c'est une police qui est très 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 limitée à la police judiciaire. Je ne veux pas dire que la police judiciaire est plus dégradée qu'une autre, mais c'est une police à part. Moi, si vous voulez, je suis un produit de la sécurité publique, c'est une autre direction de la police. Et des policiers qui commencent le matin avec un whisky, qui boivent toute la... C'est pas possible. Moi, mes policiers, ils doivent attraper des voyous. Ils doivent courir, ils doivent être sportifs, physiques. Ils sont surveillés pour ça et c'est pas possible. Je citerai personne, mais il y a dans la salle certains policiers que je connais bien vu qu'ils travaillent avec moi. Je vous assure qu'eux, ils s'entretiennent. Mmh. Et il s'agit pas de faire n'importe quoi avec leur santé.
Ouais.
Ça, c'est une réalité.
Mmh. D'accord. Et ça, justement, j'allais dire, c'est une vision, mais... Je le mets entre guillemets, mais une vision romantique, en tout cas fantasmée, justement aussi de la police, qui est présente souvent dans les livres ou dans les films. C'est
pour rester sur Olivier Marchal, on met tous une part de subjectivité qui est la nôtre. Lui, j'imagine qu'il met dedans ses propres réflexions, peut-être ses propres travers, comme moi, j'ai pu mettre effectivement dans ce livre une bonne dose d'ésotérisme. Ça m'est propre, ce n'est pas présent dans la police. Mm-hmm. Donc chacun y rajoute quelque chose.
D'accord. Bon. Alors, on va revenir là-dessus, on va évidemment parler un peu du livre. Alors, avec, comme d'habitude, c'était le cas pour... Les Jeudis de l'Orléans, ça n'a pas changé avec l'été. C'est que pour ceux qui n'ont pas éventuellement lu le livre, on va essayer de ne pas, comme on dit maintenant, en bon français, spoiler la fin du roman pour que ceux qui ne l'ont pas encore lu gardent le suspense jusqu'au bout. Et Dieu sait s'il y en a. Ce qu'on peut dire, c'est que ça commence par une prise d'otage au sein du très calme commissariat du 7e arrondissement, donc que tu connais bien. Donc ça déjà, est-ce qu'une prise d'otage, on a besoin d'être rassuré un peu, parce qu'on se dit, ça, si je vais dans un commissariat, je finis entre les mains de méchants gangsters, et ceux-là sont méchants. Est-ce que ça, c'est crédible déjà, une prise d'otage dans un commissariat ?
Mais mon bon Benoît, tu es peut-être allé un petit peu vite. Avant d'arriver à cette prise d'otage, je décris de façon extrêmement réaliste.
C'est vrai.
Un commissariat qui est en fait en proie à quelque chose de très machiavélique, c'est-à-dire à des gangsters qui s'amusent à vider le commissariat de ses effectifs avec des fausses alertes. Et ça, c'est parfaitement possible.
Mmh. Oui.
Et suite à ça, effectivement, il y a une prise d'otage qui... Enfin, c'est un canevas, je crois que ça n'est jamais arrivé, mais il fallait bien que j'imagine quelque chose qui ne soit pas arrivé pour donner de l'intérêt au livre, mais c'est quelque chose d'envisageable.
Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est ça qu'il faut, il faut préciser quand même, c'est que c'est vraiment le roman, c'est vraiment un puzzle, justement, où les pièces, ça, j'allais dire à tiroir aussi, où telle action emmène une telle autre, c'est vraiment un scénario, j'allais dire, très bien construit, justement, pour prendre le lecteur. Ça n'est pas vraiment linéaire, c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, notamment le fait que, justement, on pense que le roman va se dérouler autour de cette prise d'otage, de la négociation qui va avoir lieu, peut-être du dénouement. Et en fait, j'allais dire, c'est pas une fausse piste, mais c'est pas la piste qui amène tout le long du roman. Donc ça, c'est justement construire le roman, le scénario, c'est quelque chose que tu as manigancé pendant longtemps avant de te lancer dans l'écriture proprement dite ou...
Absolument. Et là on aborde le thème essentiel de la structure d'un livre. Et moi, j'ai une très très grande admiration pour les auteurs. Je pense à Jean-Christophe Granger, parce que, à mon sens, c'est le maître en la matière, qui savent vraiment, avec la structure, vous surprendre. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime quand je lis un livre, c'est de ne pas être capable d'anticiper ou d'imaginer ce qui va arriver dans les pages suivantes. À partir du moment où vous le faites, mais quelque part, c'est que pour moi, l'auteur, il a raté. Donc effectivement, j'ai cherché, je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, je ne sais plus si ça devait être peut-être à la radio ou ailleurs, j'ai dit que pour moi un livre c'était une boîte de manipulation, et c'est vrai, c'est-à-dire que l'auteur, moi quand j'écris je me dis tiens, je vais surprendre le lecteur, là je fais tout pour qu'il croit qu'on va aller par là, et il ne va pas y être, sans dévoiler le livre. Pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont l'acheter. Par exemple, à un moment, il vole une voiture et dans la voiture, il y a un fusil. Je fais tout pour qu'on croie qu'on va utiliser ce fusil. En fait, ce fusil ne servira à rien. Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on fait, ces fausses pistes, qu'il ne s'agit pas de perdre le lecteur. Il s'agit de temps en temps de lui rappeler que c'est vous qui le fait de voyager. Oui. C'est vous qui le guidez. Voilà. Et donc, effectivement, les structures sont pensées. Alors, moi, je le fais parce que j'aime effectivement surprendre et aussi parce que j'ai un métier à côté et que des fois, si le travail est là, eh bien, je suis amené à ne pas toucher un livre pendant des fois une semaine. Mmh. Et pour vous remettre dedans, il est capital d'avoir un plan bien détaillé pour vous remettre dans l'ambiance, etc. Donc oui, moi, je construis des structures. Et je tenais absolument, parce que quand vous faites un premier manuscrit, vous avez aussi l'arrière-pensée de séduire les éditeurs dont vous savez qu'ils reçoivent des tonnes de manuscrits. Donc, il faut les surprendre. Et là, j'ai voulu faire effectivement ce livre. Il y a une effraction à un mystère. Au départ, vous partez dans une histoire qui est une effraction à un mystère. Voilà, et ça, je tenais à le faire.
Mmh. Ouais. C'est ce qu'on en avait parlé la dernière fois. C'est un peu... toute proportion gardée, même si peut-être tu vas rougir du compliment, mais c'est un peu effectivement ce que Hitchcock faisait dans certains de ses films, c'est-à-dire qu'il conduisait le spectateur vers une piste, et puis tout d'un coup, sans mettre le clignotant, il bifurquait. Et donc voilà, c'est vrai que ça continue d'éveiller la curiosité du lecteur, parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'on va aller, quoi. Donc, et c'est crescendo, la surprise continue de monter. Donc, est-ce que sans dévoiler encore une fois toutes les pièces du roman, j'allais dire les pièces du puzzle et puis les pièces de la maison du bouquin, tu peux nous parler un peu de certains des flics qui sont les héros de ce roman, parce que ça il y a un peu le flic comment dire, un peu chevronné, il y a le jeune flic qui débute, qui ne sait pas trop où aller, il y a plusieurs personnages, quoi. Il y a plusieurs stéréotypes de policiers dans ton roman.
Il y a toute une gamme, effectivement, de policiers. Bon, je ne vous cacherai pas que, bon, évidemment, il y a un avant-propos pour dire que c'est une fiction, mais évidemment, je me suis inspiré de policiers que je connais. Et là encore, les personnalités qui sont généralement décrites dans les romans sont loin de la richesse des gens qu'on trouve dans la police. Je vous assure, c'est bon, voilà. Donc dedans, vous avez d'abord le personnage principal, je ne peux pas vous en parler plus parce que lui-même est un mystère dans le livre, puisque dans cette prise d'otage, pour revenir sur les personnages, je suis obligé de revenir sur l'histoire. Cette prise d'otage, donc, c'est une situation inédite, parce que le commissariat du 7e, pour ceux qui le connaissent, c'est un commissariat qui est extrêmement bien fortifié, qui est en partie souterrain. Donc un commissariat dans lequel sont retranchés des voyous avec des otages, techniquement, je peux vous dire que c'est quelque chose à anticiper de compliqué. Donc c'est une situation inédite, et il va y avoir une souris dans l'engrenage qui va faire que ça va connaître un dénouement pas vraiment attendu. Enfin, il va y avoir un dénouement différent avec un flic sorti de nulle part. Vous comprenez bien que ce flic, ne serait-ce que pour ceux qui négocient, que ceux qui sont à l'extérieur vont chercher à savoir qui il est, puisque ça va être un atout majeur de cette prise d'otage. Et un flic clandestin, c'est quand même pas banal. Donc celui-là, je ne vais pas vous en parler, puisque le mystère du bouquin est autour de la personnalité de ce policier. Par contre, autour, il y a toute une gamme de policiers. On a par exemple un jeune officier qui est affecté à Paris et qui n'a qu'une seule obsession, c'est être muté en province. Ça apparaît jamais dans les romans, mais je peux vous dire que au moins 2 flics sur 3 à Paris, leur obsession, c'est partir en province.
Tu avais envie de partir en province, justement, aussi. Je fais une digression, mais puisque tu en parles...
Sincèrement, non.
Bon. Donc, t'étais le seul flic sur 3 qui n'a pas envie de partir en province.
Non, mais si vous voulez, en gros, Paris, c'est formidable. Quand vous arrivez, vous êtes jeune flic et tout, célibataire, machin. C'est le pied. Puis au bout d'un moment, quand vous voulez faire une famille, ben là, Paris, ça devient compliqué. En gros, c'est ça. Donc après, vous bifurquez. Voilà. C'est le choix que j'ai fait. Et donc, il y a ce personnage-là. J'ai glissé, mais alors c'est vraiment pour montrer qu'il faut en mettre un vieil enquêteur de la PJ, un dinosaure, comme je l'appelle, qui est le commandant Jacques Laguille, qui a des méthodes d'un autre âge, qui est alcoolique, lui. Il fallait aussi un petit peu de ça.
C'est un peu Philippe Noiret dans les Ripoux, sans parler du côté Ripoux, mais la police à l'ancienne, un peu comme les méthodes.
Ouais. Oui, c'est exactement ce personnage-là, mais qui fonctionne. Il a ses méthodes à lui.
Ah oui, mais il a des résultats, oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, il dit une phrase, je ne sais plus à quel moment, où il dit « Tu te retrouves maintenant confronté au choix qui s'offre à tout policier, choisir entre l'efficacité ou le respect des lois ». Et je crois que ça résume bien le personnage. Ouais. Ensuite, il y a, en fait, c'est toute la bande du 7e arrondissement, tous les policiers du 7e qui, quelque part, sont complices de la clandestinité du personnage principal. Chacun sont décrits. Il y a le, par exemple, le capitaine.
On peut dire qu'il s'appelle Germain. Le fameux fantôme, on peut donner son nom, ça ne traduit pas le suspense.
Voilà, vous comprendrez avec le livre pourquoi on le surnomme Germain. Il y a le capitaine Xavier Véloff. Alors ça, c'est inspiré d'un copain qui s'appelle Xavier Fauvel, avec qui est commandant de police aujourd'hui, avec qui je travaillais
à Paris.
Donc
lui, il a dû se reconnaître assez facilement quand même.
Oui. Et je pense même que dans certains événements parisiens, d'ailleurs, il va m'accompagner. Je vais le montrer comme une illustration du livre. Et donc lui, son arme à lui, c'est l'humain, c'est la bonhomie. Et ça, c'est vrai que ça apparaît très, très, très peu dans les livres. Vous savez, on règle énormément d'interventions avec les mots. On règle énormément de problématiques avec les mots, avec l'humain, en comprenant les ficelles psychologiques de chacun. Et lui, il incarne bien ça. Et donc, je l'ai décrit, c'est quelqu'un d'un peu enrobé, un petit peu comme un judoka qui utilise la force qu'on oppresse sur lui pour renverser l'adversaire. C'est comme ça qu'il est décrit. Ensuite, il y a le commissaire Nicolas Valmer, qui, lui, le commissaire de permanence, qui va devoir comprendre qui est Germain. Donc lui, c'est un jeune commissaire ambitieux, et comme beaucoup de jeunes commissaires, qui est balancé comme responsable de tas de trucs, alors qu'il est un peu jeune. Et sa naïveté va un peu l'embêter là-dedans. Voilà, j'attendais ce soir un autre collègue qui se prénomme Renaud, qui lui a inspiré le commissaire Renaud qui apparaît dans le livre, dans les forces spéciales. Il existe, et pour ceux qui connaissent le livre, quand vous auriez vu sa tête, vous auriez vu que je me suis pleinement inspiré de son physique pour faire le personnage.
Voilà. D'accord. Donc c'est important quand même dans un roman policier, bon, peut-être dans tous les romans, mais peut-être aussi justement dans un roman policier où il y a quand même aussi, comme peut-être plus que dans d'autres genres littéraires, il y a quand même un besoin d'identification, quoi. On essaie de se rattacher à un personnage. Voilà, donc c'est important aussi d'obéir à certains stéréotypes dans le roman policier.
Il faut en mettre un petit peu. Encore une fois, ce manuscrit, lorsque je l'ai fait, je n'avais pas d'éditeur. Donc au départ, vous êtes obligé de concéder un petit peu à quelques clichés. Vous êtes obligé, en rajoutant un peu, je veux dire, moi, les cadavres qui apparaissent à l'intérieur, je ne les ai pas abordés sous le même angle qu'on les aborde d'habitude. Et je pense les avoir abordés avec beaucoup plus de réalisme que les autres. J'ai très rarement vu, dans les romans policiers ou les thrillers, les gens, ils découvrent des cadavres sordides, etc. Et personne n'est surpris par l'odeur. Et pourtant, je peux vous garantir, quand vous découvrez un cadavre, c'est la première chose qui vous pourrit la vie, qui vous fait vomir, et surtout vous garder une semaine après. Et ça n'apparaît jamais. Mais ça, c'est du vécu. Maintenant, Benoît, pour être pleinement honnête avec toi, il y a un besoin d'aller chercher de l'authenticité, mais il y a aussi... Moi, j'admire aussi les écrivains qui font des recherches. Certains écrivains d'ailleurs me contactent moi ou d'autres collègues pour savoir comment ça se passe, une perquisition, etc. Mais moi, j'ai un temps qui est limité, donc je nourris ma plume avec ce qu'il y a autour de moi. Ça tombe bien, c'est très riche.
Oui. Et donc, alors, sans dévoiler l'intrigue et encore moins la fin, évidemment, on va comprendre, tu l'as laissé entendre dans ce que tu disais, que le dénouement de la prise d'otage tel quel est le rapport officiel, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, et voilà, c'est un peu autour de ça ensuite que va tourner le roman, avec d'autres petites choses gratinées que vous découvrirez si vous n'avez pas lu le bouquin. Mais enfin, tu as évoqué toi-même, c'est toi qui as prononcé le mot ésotérisme, donc on peut dire qu'il y a effectivement l'apparition de ce phénomène dans le roman. Et alors, tu as parlé des policiers. Il y a également de l'autre côté, donc le chef des preneurs d'otages, qui est quand même un type assez épouvantable, mais une sorte de génie du mal, quoi, quand même.
Oui, alors je l'ai surnommé l'affreux. Et surtout, bon, je vois un peu où tu veux en venir. Il y a quelque chose qui a souvent été exploité, que ce soit au cinéma ou en littérature, c'est que c'est toujours l'idée du flic ou voyou. C'est-à-dire qu'on envisage toujours que les meilleurs flics savent penser et savent réagir comme des voyous. Mais on envisage rarement que les pires voyous fonctionnent également comme des policiers. Mmh. Et ceux qui savent fonctionner comme des policiers, ben pour les attraper, accrochez-vous. Mmh. Et moi, effectivement, j'ai concentré ça sur ce personnage. Et c'est l'ennemi public numéro un, c'est parce que c'est un tonton qui a échappé au contrôle de son flic, etc. Quoi, voilà.
Ouais. Et ça, c'est... Alors, tu parlais de policiers dont tu t'es inspiré pour écrire le roman. Des personnages aussi machiavéliques, aussi, j'ai l'air qui mettent une telle intelligence au service du mal et de la nuisance à autrui. Tu en as rencontré, ça existe, il y a des témoignages aussi. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des gangsters particulièrement terrifiants, mais donc ça veut dire. Des gens comme Grégoire, comme Lafreux, ils ont existé, quoi. Enfin, ils existent.
Non, je pense pas qu'ils en existent, parce que moi j'ai vraiment concentré beaucoup de choses, et puis moi en tant que policier j'ai pu échafauder, c'est comme pour la prise d'otage d'un commissariat, je suis bien placé pour échafauder des scénarios catastrophes,
ouais.
Et c'est un petit peu ce que j'ai fait, j'ai enfanté un truand catastrophe avec le personnage de Lafreux. Ceci dit, je crois qu'il faut absolument pas mépriser l'intelligence des truands, parce qu'ils sont futés. Il y a quelque chose de diabolique derrière, comme je crois qu'il ne faut pas, mais ça c'est très personnel, je crois qu'il ne faut pas mépriser non plus l'attirance et l'attraction que peut exercer la malhonnêteté sur les gens. Voilà.
Sur les gens, y compris dans la police, justement, aussi sans faire de sans faire d'amalgame ou de penser à certaines affaires, mais est-ce que c'est vrai que d'une certaine façon, est-ce que entre les gangsters et les policiers, de temps en temps, il n'y a pas une sorte de phénomène d'attraction-répulsion, quoi, est-ce qu'un policier peut aussi être admiratif devant ce que fait un gangster, la façon dont il échafaude un plan, dont il conçoit son méfait? Est-ce que ça peut arriver, ça, justement, de dire, ben lui, chapeau.
D'un point de vue purement technique, je pense qu'on peut effectivement reconnaître l'intelligence de certains truands. Après, il y a une notion de morale quand
bien
même
sûr,
qui intervient.
Bien sûr. Non, mais c'est, c'est là où est la frontière, évidemment.
Et d'ailleurs, ça, c'est un point aussi sur lequel... c'est un point qu'on retrouve dans mon livre et qu'on retrouvera dans le prochain, si je le finis et s'il est publié. Moi, j'ai été un petit peu choqué par cette époque qu'on a connue beaucoup avec Thomas Harris, cette fascination qu'on a eue pour les tueurs en série. Mmh. Mais ça tenait vraiment de, comme s'ils avaient un pouvoir de séduction extraordinaire. Faut pas exagérer. Enfin, les mauvais sont pas spécialement intéressants, quoi. Pour moi, je le vois comme ça.
Non, mais tu as raison. Mais en même temps, tu te rends compte quand même qu'il y a, peut-être pas qu'auprès des policiers, mais enfin, moi, j'avais été sidéré, en lisant un article où on disait que Marc Dutroux, qui est quand même pas le type le plus sympathique de la Terre, recevait par an des centaines de lettres de femmes amoureuses de lui qui voulaient le rencontrer, etc. Donc il y a aussi quand même, ça, faut pas le nier, je dis ça pour les femmes, mais il y a des hommes aussi qui peuvent, c'est pas spécifique à ça, mais je prends le cas de Marc Dutroux, parce que j'avais lu ça, j'avais trouvé ça absolument incroyable, parce que c'est quand même une des pires saloperies quand même qu'on ait rarement rencontré par rapport à ce qu'il a fait, et pourtant... Voilà, il y a quand même, y a quand même une fascination pour le mal quand même qui existe, qu'on ne peut pas écarter comme ça en se disant, ben, y a la morale. Et, donc voilà, c'est vrai que ça existe aussi. Et que toi, policier, c'est un phénomène qui doit être pris en compte dans votre métier, justement, aussi.
Alors, je vais revenir après sur le métier, mais... Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une attraction qui est de l'ordre, qui est diabolique, on va dire. Là, on reprend le Jardin d'Éden et compagnie. Moi, j'en veux aussi un petit peu aux médias, aux artistes, cette espèce de romantisme du voyou.
Oui.
Bah, alors écoutez, moi, j'ai rencontré des escrocs qui étaient très, très malins et qui méritaient mon respect. D'ailleurs, c'était des escrocs d'un certain âge qui savaient faire des... blanchir des chèques, mais sinon les voyous, enfin, j'en ai rarement trouvé d'intéressant.
Mmh, ouais.
J'en ai jamais vraiment trouvé des gens avec qui j'aimerais bavarder pendant 45 minutes. Quoi.
Ouais, ouais.
Là encore, il y a une espèce de romantisme, c'est très baudelairien qu'on invente. Je sais pas, moi je vois ça beaucoup dans les quartiers, dans les cités et tout, bah, les voyous de cité, bon, bah, que ce soit le showbiz, que ce soit tout le monde va essayer de les mettre en exergue, mais concrètement, enfin, c'est pas génial. Alors maintenant, pour en venir aux policiers, c'est tout le principe. Est-ce qu'un médecin est censé tomber plus facilement malade parce qu'il est en contact avec des gens malades? Peut-être pas non plus. Dans le livre, je fais une petite observation très réaliste.
Et ne parlons pas des croque-morts.
Voilà. Je fais une petite observation comme quoi les gens en civil, par mimétisme, se fabriquent inconsciemment un uniforme. C'est-à-dire, j'ai remarqué, les gens qui travaillent en civil, vous remarquerez, je sais pas moi, les gros services d'enquête, ça va être le costard-travate, là-bas qui vont tous finir en bomber, ces pantalons treillis, etc. Inconsciemment, les policiers se fabriquent un uniforme. Et en fait, derrière l'uniforme, à l'instar de la blouse de l'infirmière, eh bien, c'est une protection qu'on se fait. C'est une protection inconsciente par cet objet qu'on se fait par rapport à tout le mal qui vous imprègne. Et en principe, quand on l'enlève, on se débarrasse de certaines vicissitudes. Et donc, si vous voulez, les policiers, ils sentent cette attraction, mais d'abord, un policier n'est jamais seul. Le mimétisme est très fort. Je ne parle pas que de la hiérarchie, mais les collègues parlent beaucoup entre eux. On s'arrange toujours à faire des réunions, des repas de cohésion. Ensuite, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire un policier est de loin l'un des fonctionnaires les plus surveillés qui soit. Entre la hiérarchie, les instances disciplinaires, l'IGPN, le pouvoir judiciaire, etc. Bon, voilà, je veux dire, pour quelqu'un qui...
Pardon de te rappeler que dans le roman, l'inspection générale, bon, hein, on va pas...
Je me suis fait plaisir.
On va pas développer.
Je me suis fait plaisir.
Voilà, c'est ça, on sent que si ça peut servir à ça, profitons-en. Mais
exactement. Bon,
Et alors, justement, quand même, par rapport à... C'est ce que tu disais aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté d'auteur, de réalisateur, un peu ce côté d'attirance pour les voyous, d'attirance, mais... Un des personnages aussi importants de ton roman, justement, peut-être pour ça que tu l'as glissé dedans, c'est un acteur célèbre qui se retrouve pris malgré lui dans les événements. C'est un personnage où on peut retrouver plusieurs personnages d'acteurs, mais dont un, forcément, moi j'ai un peu pensé à Alain Delon qui lui-même a participé un peu à cette vision romantique du voyou par les films qu'il a tournés. C'est vrai que Alain Delon, il était, j'allais dire, aussi beau et charismatique en flic puisqu'il en a joué qu'en voyou, il en a aussi joué, quoi. Donc
c'est un acteur.
Oui.
c'est l'apanage d'un acteur.
Oui, c'est un acteur, on revient à ce phénomène, à ce besoin. Que j'évoquais tout à l'heure d'identification, où dans un roman on a besoin de s'identifier quand on est en roman. Au fur et à mesure de la lecture, on se sent plus ou moins proche de certains personnages. On se dit, celui-là est peut-être plus sympathique. Bon, s'il y en a qui se sentent plus attirés par l'affreux, allez voir un psychanalyste, parce que là il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, par rapport aux autres personnages, c'est vrai que...
Oui, enfin, lui, il est fait pour être, vous savez, pour pouvoir faire évoluer des jeux psychologiques entre les personnages, il faut des personnages un peu repères. Il faut au départ identifier bien le méchant qui reste méchant, qui est méchant de A à Z, et bon voilà, et ainsi de suite. Mais pour en venir à ce personnage, on peut le dire maintenant qu'on en est là, il y a dans cette prise d'otage quelqu'un qui ce soir-là vient par hasard déposer plainte avec sa femme et son fils qui est un acteur célèbre et qui est proche du ministre de l'Intérieur, histoire de rajouter un petit peu de pression dans cette prise d'otage. Et à travers ce personnage-là, comme à travers les journalistes, puisque dans le livre, j'ai voulu mettre en scène une interview télévisée, je tenais là aussi à parler de l'influence qu'ont les médias, qui ont aussi les célébrités, sur le travail des policiers. C'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a une tribune à la télé, etc., pour parler, eh bien, sera traité différemment. On fera attention à lui. La présence des journalistes peut, et ça, bon, ça a déjà été critiqué, etc., notamment avec les problèmes de terrorisme qu'il y a eu, mais la présence des journalistes, même si leur travail est... Je n'ai pas à juger ça, et les gens ont le droit d'être informés, parfois compliquent la vie des policiers considérablement. Et je fais partie des fois de ces policiers qui, entre ce qu'ils vivent et ce qui est raconté, auraient tendance à avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais bon, voilà.
Oui, non, mais bien sûr, évidemment. Oui. Non, juste préciser, l'acteur, il a un rôle important aussi, indépendamment de ce que ça peut rajouter de par son amitié avec le ministre de l'Intérieur, c'est que c'est un... Disons, c'est la pièce d'un mécanisme qui va contribuer à ce que la version officielle... Voilà, donc ça c'est pensé aussi. C'est ça qui est intéressant dans le livre, c'est que chaque personnage a son importance dans la construction globale du roman.
On en revient au plan de tout à l'heure.
Justement, c'est une question un peu bateau, mais que j'avais envie de te poser par rapport justement à ce que tu disais, les nouveaux voyous, la façon dont, bon, sans tomber dans le cliché marseillais, mais enfin, c'est vrai que aujourd'hui, je veux dire, peut-être qu'il y a quelques années, le policier, sans avoir un rôle sacré, j'allais dire, on hésitait quand même à lui tirer dessus. Aujourd'hui, on a l'impression que dans les cités de Marseille, où, bon, évidemment, pour reprendre le tragique exemple du couple qui a été assassiné, mais cette fois dans une affaire de terrorisme, c'est-à-dire que, voilà, on oublie parfois que toi, comme d'autres, c'est l'anecdote que tu racontais tout à l'heure, c'est qu'un métier où le lendemain, le matin, vous vous levez en n'étant pas sûr de rentrer vivant le soir chez vous, quoi. Donc c'est quand même un métier où on risque sa peau, quoi. Il faut quand même se souvenir de ça.
C'est une réalité qui conditionne, si vous voulez. Moi, je ne suis pas, entre guillemets, comme un employeur qui gère des employés. Moi, je commande des gens armés. C'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes règles, c'est pas la même façon de faire. C'est autre chose. C'est du commandement. Et j'ai envie de te dire que effectivement, chaque policier a conscience du risque. Et c'est ce qui fait qu'on veille à ce qu'il respecte tout un tas de règles incroyables, hein. Voilà, que ce soit le gilet pare-balles ou d'autres choses, etc. Mais quand on est responsable de fonctionnaires, je sais pas, moi j'en ai une centaine, eh bien chaque jour, ce qui vous obsède, c'est qu'ils rentrent tous. Et ça vous oblige parfois à être pénible avec eux. Mais voilà, oui, c'est un vrai poids. Ouais. C'est un vrai poids. C'est en cela que c'est vrai, moi, l'humour réducteur sur la police, etc., me gêne un peu. Parce que derrière ça, il y a des réalités qui sont pas marrantes.
Oui. Oui, mais on peut aussi comprendre à l'inverse que, voilà, par rapport à quand même à cette pression qu'il y a en permanence, le risque d'être tué, mais je pense aussi, ça tu peux peut-être me le dire, mais le risque de tuer quelqu'un aussi, c'est pas anodin quand un policier tue quelqu'un. Je suppose que psychologiquement, c'est pas non plus, ça se traite pas non plus comme ça, comme à la légère. Il y a aussi peut-être chez les policiers ce besoin de décompresser plus fort que dans d'autres professions, que si on est par exemple facteur. Hein, j'ai rien contre les facteurs, mais a priori, on risque moins sa peau à part être mordu par un chien quand on est facteur quand même.
Oui, mais moi, pour ce que je connais, hein, des policiers avec qui je travaille, ils sont conscients de ça. Et si mes souvenirs sont bons, même dans les écoles de police, on vous invite à avoir une vie équilibrée. On vous invite aussi à avoir des exutoires. Et ça, ce sont des choses importantes. C'est-à-dire que, par exemple, chaque fonctionnaire a droit à un minimum de 2 heures de sport par semaine. Moi, c'est quelque chose que je les invite à faire, et pour qu'ils se dépensent, pour qu'ils s'entretiennent, mais aussi pour qu'ils évacuent. Il arrive même des fois, lorsqu'il y a des conflits, des tensions, de relâcher la pression avec eux et puis de leur inciter à aller effectivement faire du sport ensemble, etc. Il y a aussi beaucoup d'entretien. Moi, je passe un temps considérable en entretien collectif ou individuel avec les fonctionnaires pour pas qu'ils se sentent seuls, pour les jauger aussi, pour savoir s'il y en a des moments où ils sont pas bien. Il faut vérifier chaque pièce du mécanisme quotidiennement pour pouvoir savoir jusqu'à quelle pression on peut mettre, comment, pourquoi. On en revient au management dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au ficelle psychologique, et voilà. Mais ça demande beaucoup d'attention.
Et ça, justement, tu le retrouves pas dans les romans, dans les séries, et ça...
Non.
Cet aspect peut-être un peu méconnu, où vous n'êtes pas tout le temps en voiture avec le gyrophare roulant à tombeau ouvert dans les rues d'une ville pour partir à la recherche d'un gangster, etc. C'est la partie, j'allais dire, immergée de l'iceberg que tu as envie de montrer au lecteur.
Oui, c'est effectivement cette dimension-là. Et je pense surtout, je ne suis pas sûr qu'elle... Je suis pas sûr qu'elle intéresse, cette dimension-là, les gens qui parlent de la police. Ils n'ont pas envie de savoir qu'il y a de la psychologie derrière ça. Ils n'ont pas envie de savoir le temps qu'on peut passer et l'aspect humain des policiers non plus. Moi, je suis surpris parce que, évidemment, en 15 ans de police, je n'ai pas rencontré que des policiers exemplaires, mais j'ai rencontré une telle quantité de gens qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour aller sauver d'autres personnes, y compris des voyous. Et ça, l'aspect héroïque, oh ben non, ça fait cliché, ça n'intéresse pas les gens. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment une réalité. Je crois que dans ce pays, on peut être fier de notre police et des gens qui y sont, parce que évidemment, quand il y a des incidents, d'abord tout le monde le sait et c'est traité, mais c'est quand même des gens qui n'ont pas peur. Alors déjà, ils risquent leur vie, mais ils sont prêts à la risquer surtout pour les autres. Et ça, moi, je trouve ça admirable.
Et alors, justement, tu parlais d'exutoire, on en revient quand même à ton roman. Est-ce que pour toi, l'écriture, c'est aussi un exutoire, justement, c'est une façon de relâcher la pression, de te détendre. C'est quoi pour toi l'écriture?
C'est même une forme de méditation, mais bien sûr, c'est un exutoire. C'est pour ça que je suis gêné quand il faut parler de la suite, parce que la vérité, c'est que j'écris tout le temps. J'écris tout le temps, bon, avec un plan qui est défini, mais je suis tout le temps en train de le remplir. Après, ça fait quelque chose que j'ai envie ou pas de publier, qu'un éditeur voudra ou pas publier. Mais oui, c'est un exutoire. J'ai besoin de faire ça. Et oui, et puis il m'arrive même de régler des comptes. Hein. Il m'arrive même aussi d'écrire des choses idylliques. Il m'arrive de voilà. Bien sûr, c'est un truc parallèle qui n'appartient qu'à moi.
Mais toi, c'est ce que tu écris, dont tu parles là à l'instant, c'est. C'est pas forcément pour être publié, c'est quelque chose où tu voilà, le soir, tu as besoin de comme une sorte de journal intime où tu racontes un peu ce que tu as vécu, etc.
Non, j'irai pas jusque-là, mais quand il y a certains événements qui sont marquants, des expériences qui sont marquantes, c'est simple. Quand au bout d'un mois, vous repensez encore à une intervention ou à une découverte de quelque chose ou un risque qui reste un peu imprégné, bon, c'est pas, vous n'êtes pas traumatisé. Mais je me dis que ça, si ça reste, c'est que c'est assez riche, assez important, assez incandescent pour être écrit. Et je m'arrange à le tisser autour d'une fiction et je le mets dedans. C'est ce que j'ai fait avec pas mal d'éléments là-dedans. Dans ce livre, il y a par exemple une chasse en moto que j'ai vécue. Et voilà, et je l'ai mis là-dedans.
Avec un Phaser Yamaha, on en avait parlé.
Tu avais eu un 600
Phaser. J'ai eu un Phaser Yamaha, absolument.
Voilà.
Voilà. Et donc j'ai effectivement vu que ça va très très vite. Mais comme je le disais, moi je le conduisais sans avoir quelqu'un qui me tirait dessus. Quoi. Mais bon, ce qui est mieux quand même.
Oui.
Non. Mais alors, par exemple, on en revient à l'anecdote que tu racontais, cette chasse à l'homme que tu avais faite à Mériadec, etc. J'imagine que quand ça se termine et que tu rentres chez toi, c'est pas comme quelqu'un qui rentre du boulot, qui se met dans son fauteuil. J'imagine qu'il y a il faut un sas de décompression quand même. C'est des moments où il y a à la fois une nervosité, mais il faut rester calme, mais j'ai même de tension, d'angoisse, de stress qui fait que tu décompresses pas comme ça d'un seul coup. Quoi.
Ça
peut passer par l'écriture, justement, j'y reviens pour ça, pour l'écriture, d'avoir besoin, quand tu rentres d'un tel événement, de l'écrire, de t'en délivrer par le fait de l'écrire.
Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas revenir sur des événements qui ont eu lieu en exercice, hein, parce que le devoir de réserve me l'interdit. Mais effectivement, et ça, vous pouvez demander à n'importe quel policier de voie publique, des fois, ils arrivent chez eux, ils ne trouveront pas le sommeil. Mmh. Ils ne trouveront pas le sommeil avant longtemps. Ouais. Et ça peut venir de, ils ont évité un coup de couteau. Eh bien, ça reste. Ça peut être parfois, et je parle sous l'autorité de certaines personnes dans la salle, ça peut être effectivement une poursuite en voiture, où on évite l'accident, on l'évite heureusement. Eh bien, après, on peut se réveiller la nuit avec les pieds sur la pédale de frein. Quoi, en gros. Ça, bien sûr, voilà, ça marque. Et je reconnais que ces choses-là, c'est vraiment un atout extraordinaire que j'ai que de les écrire. D'abord parce que je restitue quelque chose de très vibrant. Et pour en revenir aux cadavres tout à l'heure, on décrit beaucoup de cadavres, mais on voit bien très bien, et ceux qui ne l'ont jamais trouvé, ceux qui n'ont jamais trouvé de cadavre de leur vie, ils le décrivent, mais ça fait plastique. Mmh. Et moi, j'ai en plus ça, donc c'est à la fois productif, et puis en plus, ça me libère, donc tant mieux.
Bon, alors donc, tu l'as précisé, tu es en train d'écrire le nouveau roman, donc qui cette fois... Je pense, pour avoir une chance auprès de Patrick Olaya, devra se passer au Cap Ferret. Hein. Sinon, c'est foutu.
Je sais.
Non. D'accord. Donc, c'est trop tôt pour dire un peu ce que...
Peut-être, il faut peut-être préciser, les éditions Vent Salé sont généralement, même si c'est pas dogmatique, hein, généralement se passent dans la région et sur le bassin. C'est un petit peu la ligne. La région, c'est un peu la ligne. Le mien se passe à Paris, intégralement à Paris. Donc je suis un peu l'intrus. Et voilà, et donc c'est vrai que quand on avait parlé avec Patrick et quand je l'ai rencontré, j'avais dit le deuxième, c'est promis, il se passera dans la région. En même temps, je me vois mal me nourrir aujourd'hui d'une police parisienne que je ne connais plus. Mmh. Oui, ça se passera dans la région. Enfin, pour l'instant, de ce que je fais, mais encore une fois, je sais pas, moi j'ai dû gratter 100 pages, j'en gratterai 350, après je vais les retoucher pendant des mois.
Et puis, enfin, peut-être pas des mois non plus, hein. Hein, Patrick, non ? Combien 15 jours, quoi, à peu près, hein, c'est ça, en gros. 3 semaines, allez.
Mmh. Oui, ça se déroulera effectivement ici, j'ai quelques idées, j'aimerais... Mais je vous le dis, je vais essayer de sortir un petit peu de l'aspect policier. Ce sera davantage un thriller, parce que ce roman D'accord. commence comme un polar et bascule très vite dans le thriller. Là, je vais aller davantage dans le thriller et me sortir un petit peu de la police, voilà.
Alors, question que je t'avais posée à l'Orléans et que je te repose, parce qu'entre-temps... Il y a eu évidemment beaucoup plus de lecteurs entre nos deux rencontres. Auprès de tes collègues, qu'ils soient en dessous ou au-dessus, de tes autorités, etc. Le roman a été lu, tu as eu des remarques. Est-ce que c'est bien vu par les autorités policières qu'un fonctionnaire de police écrive un roman sur la police, même s'il n'y a rien de compromettant dans ton livre, hein, c'est pas... C'est bien vu, t'as des pressions, j'allais dire, amicales. Pour dire capitaine Philippe Harry, ce serait bien que vous rédigiez plutôt des procès-verbaux que des romans, ou non ?
Non, j'irai pas jusque-là. Mais d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que ce roman est une fiction. Et ça, j'insiste, hein, c'est absolument pas un documentaire. Il y a un avant-propos pour le dire. Il se nourrit de réalisme, parce qu'il y a des choses que je suis plus à même de décrire que d'autres pour en avoir vécu des choses similaires. Donc déjà, bon, ça n'a pas cet aspect, ce n'est pas un livre de règlement de compte, de critique, c'est une fiction, ça n'a que vocation à divertir. Alors ensuite, c'est un peu comme je te l'avais dit, c'est-à-dire que les gens, il y a d'abord des gens qui aiment le roman policier, des collègues, et qui les retours sont plutôt bons. Maintenant, les collègues qui ne m'apprécient pas, je pense qu'ils n'ont pas acheté le livre, ou ils l'ont acheté uniquement pour cracher dessus. Maintenant, je dirais que l'accueil a été plutôt chaleureux, sympathique. J'ai même eu des gens très très qui ont vraiment beaucoup aimé le livre. Mais ça va. Je pense que c'est assez ouvert. Personne n'a été méchant. Non. Bon, en tout cas, pas devant moi.
D'accord. Et alors, une question plus interne aux éditions Vent Salé. Est-ce que tu as lu d'autres livres de polar publiés par Patrick Olaya ?
Oui.
Alors, par exemple, est-ce que si tu as lu les livres de Guy Reschenmann, est-ce que le commissaire Anselme Villoc te paraît être un personnage...
Non, c'est par hasard.
Oui, mais enfin, par hasard, qui se renouvelle quand même, donc... est-ce que là, c'est pas un commissaire, c'est un commissaire atypique, mais cela dit, c'est assumé et voulu par l'auteur. Donc.
Oui, voilà, il est atypique, bon, réaliste peut-être plus aujourd'hui, mais c'est un personnage intéressant. Et ce que j'aime surtout, moi, dans ce que fait Guy, c'est plus au niveau de la structure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Guy, c'est me surprendre. Voilà, c'est à quelque chose d'intelligent derrière. Voilà, et ça, c'est ce que j'apprécie.
Bon. Merci en tout cas aux personnes présentes d'être venues. Merci Laurent Philippe Harry de ce dialogue. Merci beaucoup, bonne soirée.